Je m'insère quelques secondes dans cet épisode pour vous dire que cette semaine, on ouvre notre Odyssée de la fertilité, un atelier en vidéo pour vous donner plein de clés pour reprendre en main votre fertilité. C'est gratuit, vous avez 3 épisodes et si vous voulez la visionner seule ou à deux, je vous mets le lien pour la recevoir en description.
On peut aussi beaucoup attendre des techniques d'aide médicale à la procréation, mais je pense qu'il ne faut pas tout remettre à la médecine, à la technique, dans le sens où il y a une part aussi individuelle qui permettrait aussi d'augmenter les chances. Il y a plein de couples aussi à qui on a annoncé une infertilité et qui estiment que c'est terminé et il n'y aura plus de chances de conception naturelle. Or, c'est vraiment faux.
Pourquoi faut-il souvent attendre d'être confronté à des dysfonctionnements pour commencer à s'intéresser à son corps de femme ou d'homme ? Nos cycles, notre fertilité, nos hormones et nos nuances, on les connaît si peu en fait. Je suis Lorraine Saint-Dicic et ma mission, c'est de vous émanciper par une meilleure connaissance de votre corps. Chaque semaine, seule ou avec l'appui d'experts et d'experts passionnés, on va vous apprendre à décrypter vos cycles, à vous autonomiser dans la gestion de votre fertilité ou de votre contraception. Bref, on va vous faire reprendre le pouvoir. Bienvenue chez Émanciper et placez l'épisode.
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler un peu plus des hommes. On va regarder les spermatozoïdes au microscope avec une médecin biologiste de la reproduction, le docteur Lucille Feureux, qui va nous expliquer un peu en détail tout ce qu'on peut voir dans un spermato, tout ce qu'on fait, etc. C'est un peu technique, mais en vrai, surtout hyper intéressant. Plein de, voilà, de connaissances pour ceux qui sont concernés par un spermogramme peut-être un peu décevant, qui sont PMA ou pas du tout, mais qui veulent juste comprendre un petit peu plus comment ça marche tout ça, la fécondation, comment un spermato pénètre dans un ovocyte. Vous verrez, c'est passionnant. Donc, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse avec Lucille. Place à l'épisode. Bonjour Lucille, merci de venir passer ce moment avec nous.
Bonjour.
T'es médecin biologiste de la reproduction. Tu connais très bien les spermatos, c'est l'objet du jour. On va se faire un épisode un peu le spermato au microscope, parce que toi, tu les regardes de très près, ce que nous, on voit jamais. Donc, c'est l'objectif de ce moment qu'on va passer ensemble. Est-ce qu'avant qu'on plonge sur le microscope, tu peux, s'il te plaît, te présenter ?
Oui, avec plaisir, Lorraine. Alors, merci de me permettre de parler un petit peu plus des spermatozoïdes. Moi, je suis docteur Lucille Feureux, je suis médecin biologiste de la reproduction. Je travaille à l'hôpital Cochin. Et cette discipline, les biologistes, on les connaît pas toujours, mais la fonction, elle est à la fois biologique au laboratoire pour effectivement explorer les spermogrammes à but diagnostique et puis aussi à but thérapeutique au sein du laboratoire de FIV. Et on a aussi une activité de consultation. Donc, c'est médico-technique, à la fois au contact des patients, mais aussi dans le laboratoire, près des gamètes et des embryons.
Ok. Et tu sais, j'ai reçu Nadia Kasdar, on a fait un épisode qui est biologiste aussi sur les ovocytes, pour le coup, et les embryons même, surtout beaucoup. Mais il n'y a pas de spécialité, il n'y en a pas qui sont plus spermatozoïdes, plus ovocytes, ou on a quand même sa petite casquette ?
Non, c'est plus la distinction diagnostique ou thérapeutique. Il y a des biologistes de la reproduction qui font que du diagnostic, que du spermogramme, et puis il y en a qui font aussi du thérapeutique, qui sont dans le labo, qui font la fécondation, qui mettent en fécondation les gamètes et suivent le développement des embryons. Il y en a qui font les deux. Il y a aussi des biologistes qui font du séco, la préservation de fertilité, congélation de spermatozoïdes, par exemple. Ça, c'est plus les centres publics.
Ouais, c'est plus dans le public qu'on fait ça.
Ouais. Exactement.
Ok. Je demande toujours à mes invités experts en quoi ils participent à l'émancipation des femmes. Toi, ça va être un peu les deux, et d'autant plus des hommes aujourd'hui, parce que c'est notre sujet. Ouais. Est-ce que tu as une idée de ton émancipation ?
Ah, mais j'en ai plein. mais à travers les hommes. À travers les hommes, parce que là, ça commence à faire plein de petits signaux qui montre que, je pense que c'est très positif, les hommes, ils ont envie de s'impliquer à la fois dans le projet parental, évidemment, ça a toujours été un projet à deux, mais il y a des petits signaux quand même qui montrent que par rapport à ces dernières années, moi maintenant, ça fait quand même 10 ans que je fais ce métier, on sent plein de petits signaux d'hommes qui ont envie d'améliorer leur quotidien, de s'impliquer plus pour améliorer leur fertilité. Les signaux aussi qu'on a, c'est via la contraception masculine. Il y a quand même des choses qui émergent. Et mine de rien, c'est quand même pas anodin pour une femme d'avoir un conjoint qui s'implique plus dans la contraception du couple ou dans la fertilité. Donc, je pense que via les hommes, il y a quelque chose de très positif pour accompagner les femmes parce que ça reste toujours des projets à deux. pour les couples hétérosexuels, il y a via l'homme, je pense qu'un homme bien épaulé, bien soutenant en plus, c'est assez intéressant pour une femme. Donc, une femme émancipée, ça passe peut-être aussi par un homme. Je sais pas si c'est très féministe.
Un homme émancipé, en tout cas, émancipera encore plus sa femme, qu'elle ait moins de charges mentales à porter.
Ça se potentialise, je pense.
Ouais. Ouais, non, tu parles de la contraception, c'est hyper intéressant, on pourra en parler peut-être aussi, mais on peut commencer plus sur l'aspect fertilité. Mm-hmm. Il y a plein de chiffres sur la baisse de la fertilité des hommes qui serait catastrophique, etc. Est-ce que déjà, peut-être on peut se faire un point là-dessus, sur l'état des lieux de la fertilité masculine?
L'état des lieux, il y a une grosse méta-analyse. Les méta-analyses, c'est vraiment ce qui apporte le plus gros niveau de preuve en science, une grosse méta-analyse de 2022 qui a repris toutes les petites analyses qui existent à travers le monde et qui sont publiées dans les sites les plus réputés et qui montrent qu'il y a une baisse de 50% des paramètres spermatiques en 50 ans. Donc, ils ont montré plusieurs choses parce que cette baisse, elle était déjà connue. Hein, ça fait 40 ans. Depuis les années 70, on dit attention, il y a une concentration en spermatozoïdes qui diminue à travers, à l'époque, c'était parmi les pays du Nord. Et là, cette étude, elle a apporté plusieurs nouveautés. Elle confirme qu'effectivement, cette baisse est présente. Donc, réduit de moitié en 50 ans. Ils disent que la baisse, elle s'accélère depuis les années 2000. Et contrairement à ce qui était dit par le passé, cette fois, cette baisse, elle est mondiale. Donc, quand elle est parue, c'était Spermageddon, on avait vu des gros titres, la fin d'espèce humaine. Donc, clairement, c'est pas le cas. Hein. Ça reste un signe fort. Il y en a qui critiquaient la méthodologie de l'étude. C'est vrai que c'est pas parfait. Il y a beaucoup d'extrapolation de données, c'est-à-dire que parfois, à partir de moyennes et une tendance sur une courbe, ils ont pu, pour certaines études, extrapoler des tendances. Les méthodes de mesure, c'est vrai qu'il y a, il y a 50 ans, c'était peut-être pas toujours la même rigueur. Bon, il n'empêche que je pense que cette baisse, cette étude, elle est quand même très solide et elle a peut-être des biais, mais il y a une baisse qui est clairement en cours. Après, de là à dire que l'association, elle est parfaite entre la baisse du nombre de spermatozoïdes et la baisse de fertilité, c'est quand même beaucoup plus subtil que ça.
Oui, parce qu'il y en a des millions. Donc, on en parlera peut-être un peu plus, mais...
C'est ça, c'est un peu une courbe en S ou en Z. Disons que les concentrations très basses, on a très peu de chance. Puis plus la concentration, elle va augmenter en spermatozoïdes, plus on va avoir de chance. Puis après, en fait, il y a un plateau. Donc, en fait, là, le seuil, il est à peu près à 50 millions. Sur cette étude, en tout cas, on dit qu'on est passé de 100 à 50 millions. Donc finalement, est-ce qu'on est infertile si on a 50 millions versus 60 millions ? Ben, peut-être pas forcément, il y a un plateau. Ça, finalement, c'est les données en termes de naissance qui donneraient plus de poids.
Oui, c'est un peu comme ces études sur la richesse où à partir de, je ne sais plus, 8000 euros par mois, tu n'es pas plus heureux. Donc, tu vois, ça ne sert à rien. Ouais. Quand tu as dépassé le plafond, c'est que du bonus, mais qui n'a pas forcément un impact. Là, ce que tu veux dire, c'est que c'est pareil. Certes, ça a baissé, mais on est toujours à peu près à un niveau qui, normalement, quand on rentre dans ces critères-là, permet d'avoir une fertilité OK.
Exactement, parce que ce qui fait le seuil, c'est le seuil de l'OMS, en fait, ce qui fait vraiment le cut-off entre hommes qui ont un potentiel de reproduction et ceux qui ont une diminution, bah, c'est le seuil et c'est 16 millions par millilitre.
Ouais.
Mais il y a une baisse. On va pas.
Moi, oui, il y a une baisse.
Je minimise pas, mais c'est pas l'alarme extrême.
C'est pas Spermageddon.
C'est pas Spermageddon.
Mais c'est quand même, Et comment on l'explique, ça? Parce que si c'est depuis les années 70, c'est pas que très récent avec nos modes de vie ultra pollués, etc. Mais ça avait commencé déjà ces années-là.
Clairement, si, ça s'accélère en plus depuis les années 2000, c'est ce qu'ils montraient. Et ça va avec l'ère industrielle. L'alimentation ultra transformée, enfin, c'est multifactoriel. La liste, elle est très longue, mais c'est probablement la sédentarité avant tout, l'alimentation. Et ce qui est assez intéressant, mais là pour le coup, c'est un petit peu anxiogène, mais je pense qu'il faut, faut prendre du recul. C'est pas nouveau qu'on est très sédentaire et que le manque d'activité physique est pas bon pour la santé. Mais de façon générale, pour le coup, il y a quelques études qui montrent qu'il y a une association entre la concentration en spermatozoïdes et certains risques d'hospitalisation, par exemple. Il y a Alors potentiellement, c'est aussi lié à l'hygiène de vie, hein, mais disons que l'idée, c'est peut-être aussi que la production en spermatozoïdes, sans parler des causes génétiques qui sont vraiment à part, encore une fois, je veux pas être anxiogène, mais ça peut quand même être un révélateur de la santé globale. C'est, ouais. C'est un peu ça le message. C'est assez complexe d'expliquer du coup cette baisse, mais potentiellement, en plus, il y a des effets qu'on dit transgénérationnels. C'est-à-dire que de génération en génération, il peut y avoir, justement via les spermatozoïdes et l'épigénétique, il peut y avoir des transmissions à la descendance. Donc tout s'entremêle entre le passif des grands-pères, des pères et l'environnement, même la vie intra-utérine. Donc, il y a un message de prévention aussi pour les femmes enceintes. Le petit fœtus masculin dans le ventre de la maman, s'il est exposé à des perturbateurs endocriniens, il peut avoir un impact sur son appareil reproducteur. Et on voit aussi, il n'y a pas que les paramètres spermatiques, hein, il y a la recrudescence des malformations à la naissance. C'est hyper angoissant ce que je dis.
Attends, des malformations de l'appareil reproducteur ou dans l'absolu?
L'appareil urogénital. Ouais.
Okay.
Les phimosis, c'est le prépuce qui est un petit peu resserré, la cryptorchidie, c'est la non-descente des testicules dans les bourses, le cancer du testicule chez les jeunes hommes aussi qui augmente. C'est plein de petits signaux justement parce que ça reste l'appareil reproducteur masculin, il est très sensible à l'environnement et les spermatozoïdes aussi.
Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, côté féminin, je sais qu'il y a le collège des gynécos américains qui a dit que le cycle, c'était le cinquième signe vital et qu'en fait, voir le cycle d'une femme, ça dit énormément de choses sur sa santé et c'est aussi une sorte de lanceur d'alerte, de reflet de l'état de santé général quand le cycle se dérègle. Et en fait, ce que tu dis, c'est que c'est la même chose côté masculin et que l'état du spermogramme peut, alors il y a toujours des exceptions de gens qui ont un souci, qui ont une super hygiène de vie et quand même un mauvais spermogramme, mais ça reste un bon reflet de l'état de santé global.
Ouais, c'est ça. En fait, il faut revenir aussi peut-être à la base du développement du mammifère dans la nature. Se reproduire pour le mammifère, c'est la fonction principale. Donc, l'indication de sa bonne santé, c'est aussi sa fertilité, quoi. C'est un peu... sans tomber dans les gros clichés de virilité, fertilité, c'est pas ça, hein.
C'est ce qui permet la survie de l'espèce et c'est ce qui est impacté souvent, en premier lieu, parce que c'est aussi le moins vital à son échelle à soi. Ouais. C'est-à-dire que d'abord, il faut respirer, il faut vivre et se reproduire à la fin. Mais hyper intéressant comme état des lieux, qui n'est pas alarmiste, mais quand même assez réaliste. Est-ce qu'on pourrait justement parler un petit peu de toi, ton travail et ce que tu vois? Comment c'est fichu, cette affaire? Et après, pour qu'on voit... Où est-ce qu'on peut avoir des anomalies? Toutes ces baisses de fertilité, en fait, c'est à la fois sur la concentration, mais aussi sur la forme des spermatozoïdes, sur leur mobilité, etc. Donc, à quoi ça ressemble à la base? Et puis après, qu'est-ce qu'on peut avoir comme...
Un spermatozoïde, donc, c'est donc plus petite cellule du corps humain, qui va donc féconder quand même la plus grosse qu'est l'ovocyte. Et petite cellule qui a la capacité, donc qui a un noyau qui est très condensé au niveau de sa tête. Au-dessus de la tête, il y a ce qu'on appelle un acrosome. Ça, c'est ce qui va servir au moment de la fécondation à pénétrer dans l'ovocyte. Après, il y a la partie qui permet sa mobilité, qui est quand même une grosse spécificité du spermatozoïde, qui s'appelle le flagelle. Et donc, ce spermatozoïde, il va avoir la particularité, dans sa tête, de contenir du coup la moitié du patrimoine génétique qui va aller transporter depuis l'appareil reproducteur masculin. Il doit traverser quand même un long parcours entre sa production initiale. Il a un stockage dans le testicule avant d'être éjaculé. Puis ensuite, il va remonter tout l'appareil reproducteur, arriver dans un milieu très hostile avec des variations de pH, des variations assez rudes. Donc, il a dans son noyau un ADN qui est très, très, très condensé. Il est très, très, très condensé justement pour éviter qu'il y ait un stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est ce qui va aller potentiellement risquer de casser les brins d'ADN. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de stress oxydant ou d'antioxydant, de prendre des vitamines, des compléments. C'est parce qu'on sait que le spermatozoïde, de par son long voyage, entre guillemets, il est très à risque d'avoir un ADN fragmenté ou abîmé.
Et puis il est fragile. C'est une petite cellule fragile.
Ouais, il est fragile. Enfin, il a l'attirail, on va dire, pour se protéger. Mais s'il y a un excès d'agression ou que la compaction de son ADN, elle se fait pas bien, Là, ça peut être plus critique. Et donc, pour répondre à la question, donc ça, c'est le spermatozoïde en lui-même. Ce qu'on regarde au laboratoire, c'est dicté par c'est l'OMS. Il y a des recommandations sur les différents paramètres du spermogramme. Et donc, on regarde le volume éjaculé, qui n'a pas vocation à être un reflet. Ce qui est souvent cru, c'est qu'on a une corrélation entre le volume éjaculé et le nombre de spermatozoïdes, ce qui est absolument faux. Il n'y a aucune corrélation. Il y a des hommes qui ont un tout petit volume, une grande concentration, et l'inverse est vrai. Le volume, ça représente le liquide séminal. C'est les spermatozoïdes qui baignent dans un liquide qui est produit par les différentes glandes annexes sur le trajet des spermatozoïdes, la prostate, les vésicules séminales essentiellement. C'est quand même un indicateur s'il y a une infection, s'il y a une obstruction au niveau de l'appareil génital. On regarde aussi le pH du sperme. Concentration, on en a parlé, donc c'est le nombre de spermatozoïdes par rapport au volume. Il y a la numération totale aussi. Il peut y avoir des hommes qui ont un tout petit volume, une petite concentration, ce qui va faire que quand on multiplie la concentration par le volume, on va avoir une numération qui va être basse, mais l'inverse sera pas vrai. Enfin, je sais pas si je vais être très claire. Si on a une concentration qui est basse, mais un grand volume, eh ben, on va avoir une numération totale qui va être élevée.
Oui.
La mobilité, ce qui est important. On regarde les spermatozoïdes qui avancent. Les types A, type B, souvent sur les comptes rendus, ce qu'on reçoit, c'est mobilité progressive. Donc, type A et B, spermatozoïdes qui avancent, c'est potentiellement eux qui peuvent féconder un ovocyte et c'est ceux qui nous intéressent. Type C, c'est ceux qui sont mobiles sur place. Type D, ils ne bougent pas.
Okay.
La vitalité, c'est parmi ces spermatozoïdes, il y a une proportion qui n'est pas négligeable de spermatozoïdes morts. C'est lié au fait que c'est une production qui est continue. Donc, on a basiquement c'est 58% des spermatozoïdes qui sont vivants. Et si par exemple on attend trop longtemps entre deux éjaculations, il peut y avoir un excès de spermatozoïdes morts ou plein d'autres facteurs qui peuvent entraîner une augmentation des spermatozoïdes morts. Et ça peut baisser la mobilité. Si on a une vitalité qui est basse, donc beaucoup de spermatozoïdes morts, c'est normal qu'en regard ils soient pas très mobiles. Et le dernier paramètre, et c'est un paramètre qui inquiète toujours beaucoup sur les comptes rendus, c'est la morphologie. La morphologie des spermatozoïdes. Alors, on voit plusieurs termes. On voit les formes typiques. C'est un autre terme qu'on peut voir sur les comptes rendus. On peut parler de tératozoospermie. Tous les termes qui vont avec le spermogramme, c'est lié à la racine grecque. C'est vitalité, c'est nécrospermie. Nécro, c'est mort. Mobilité, c'est asthéno quand c'est réduit, c'est fatigué. Volume bas, c'est hypovolémie. Baisse de concentration, c'est oligo. Oligo, c'est-à-dire diminution, baisse. Crypto, quand il y a très peu de spermatozoïdes, crypto, c'est caché. Cryptozoospermie.
Ouais.
Donc, morphologie, tératozoospermie. Et là, c'est toujours un peu plus compliqué pour quelqu'un qui reçoit un compte-rendu de s'y retrouver parce que, en fait, on regarde sur la tête, le flagelle, toutes les anomalies c'est des classifications, et on les répertorie, on fait un échantillonnage sur 100 spermatozoïdes. Et en fonction, on les classe en forme typique ou forme atypique. Il y a deux grandes classifications qui existent. La principale, c'est celle de l'OMS, c'est Kruger. Et la norme, en plus, elle est très basse, elle est à 4%. Et donc, c'est assez fréquent qu'on se retrouve avec des formes typiques en excès.
Ouais. Oui, ça veut dire que la plupart des spermatozoïdes, de toute façon, n'ont pas la bonne forme.
Oui,
et c'est normal.
La bonne forme. Exactement. Ouais. Ils n'ont pas la bonne forme, mais après, c'est un échantillonnage sur 100 spermatozoïdes. Et souvent, on est sur la base d'un éjaculat qui est à plus de 50 millions. Physiologiquement, c'est très rediscuté. Enfin, on va pas, et c'est de plus en plus admis dans la communauté des médecins et biologistes de la reproduction, de dire que on va pas poser une indication d'infertilité sur la base d'une morphologie anormale, sauf certaines qui sont ce qu'on appelle monomorphes, c'est-à-dire que parmi les spermatozoïdes atypiques, ceux qui ont une forme qui est anormale, on retrouve toujours la même anomalie. Les plus fréquents, c'est ce qu'on appelle des macrocéphales, c'est des grosses têtes, ou bien plusieurs flagelles, ou bien des flagelles courts. Enfin, mais c'est très, très, c'est très parlant. Et c'est très rare.
Et grosses têtes, c'est pas bien. Ça veut pas dire qu'il y a un plus gros ADN ou.
Si, c'est ça. En plus, si, c'est ça. Souvent, c'est, okay. c'est les spermatozoïdes au moment de leur formation qui se sont pas bien séparés. Et souvent, c'est qu'il y a deux noyaux et donc il y a plusieurs contenus en chromosomes. Donc,
ah si ouais. Et ça, pas... ça peut pas féconder un ovule.
Et ça, ça peut pas, ça peut. Enfin, et si c'est le cas, c'est de toute façon un embryon qui est voué à être avec un contenu anormal. Mais c'est très rare. Ouais. C'est des anomalies qui sont très rares. Et celle-là, faut pas passer à côté. Mais sinon, les anomalies, qu'on en parlait, l'acrosome, un acrosome mal formé, des têtes irrégulières, des pièces intermédiaires irrégulières, plein de termes un peu compliqués, plein de petites anomalies. C'est pas, faut rester tranquille sur les tératospermies polymorphes.
Ouais. Oui, mais c'est vrai que j'entends de plus en plus de médecins qui disent qu'ils regardent même pas cette ligne sur le spermogramme.
Et ouais,
on s'intéresse pas, quoi.
Ça commence à devenir très, très controversé. Après, la base, ça reste quand même de pas passer à côté de ces fameuses anomalies monomorphes qui peuvent être génétiques. Parce que ça, c'est vraiment dommage. Mais donc, ouais, c'est vraiment ça, l'ensemble des paramètres du spermogramme de base. Mmh. Et après, il y a des tests de sélection qu'on peut proposer. La plupart des biologistes, enfin des gynécologues le prescrivent ou les biologistes avant une aide médicale à la procréation. Là, en fait, on va sélectionner les spermatozoïdes de façon à ne récupérer que les plus mobiles et ceux qui ont justement la meilleure morphologie. On va enlever tous les spermatozoïdes morts, tous les débris cellulaires et récupérer vraiment une centrifugation, un concentré des spermatozoïdes les plus mobiles. Ça va mimer un peu ce qui se passe dans les voies génitales féminines.
Oui, parce que cette sélection, tu l'as sur le chemin, quoi.
Exactement, elle se fait sur le chemin. C'est un peu, en fait, en enlevant le liquide séminal, c'est comme si on avait un contenant qui inhibe et on va désinhiber les spermatozoïdes et leur donner un mouvement d'hyperactivation, en quelque sorte. Et c'est le test de sélection. Et sur la base du résultat de ce test de sélection, on va décider quelle est la technique la plus adaptée pour la prise en charge en aide médicale à la procréation, ou bien, en tout cas, voir si on peut améliorer, par exemple, une mobilité ou une vitalité qui était un peu basse sur le spermogramme initial. On peut, comme ça, en concentrant, récupérer un peu plus de spermatozoïdes mobiles.
Ouais, ok. Là, tu nous as dit tout ce qu'on voyait au microscope dans le spermogramme de base, sachant que la morphologie, c'est un examen un petit peu à part. Et après, tu as ce qu'on fait de plus en plus aussi, c'est la fragmentation de l'ADN, justement, pour voir si, même s'il est très beau, mais que dans sa tête, en fait, le matériel génétique est altéré. C'est ça, hein ?
Oui, la fragmentation de l'ADN, alors c'est, en fait, c'est un peu toute la limite de la morphologie, hein. Ce qu'on vient de dire est les normes du spermogramme de l'OMS. Ça ne veut pas dire si on a un spermogramme normal qu'on est fertile, mais à l'inverse, s'il est anormal, ça ne veut pas dire qu'on est complètement infertile. Bref.
Ouais.
Et pourquoi on regardait la morphologie à la base ? Parce qu'on estimait qu'il pouvait y avoir une corrélation entre la tête du spermatozoïde et son contenu en ADN et la qualité de son ADN. C'est très, très imparfait, comme on imagine. Et aujourd'hui, de plus en plus, on propose des fragmentations de l'ADN spermatique. Ça reste, sur le plan scientifique, un examen complémentaire. Autant le spermogramme, c'est 100% du bilan d'infertilité, c'est indiscutable. Autant la fragmentation, elle n'est pas censée faire partie du bilan de première intention quand on fait un bilan d'infertilité. Il n'y a pas de consensus sur le moment où on peut réaliser cette fragmentation, où c'est le plus opportun, où ça va apporter le plus de réponses. Je m'explique, c'est par exemple, certains vont le prescrire en systématique, pour le coup, d'emblée. ça n'a pas de justification. Il y en a qui vont le prescrire après des bilans de fausse couche, pour essayer de déterminer si on n'a pas une origine.
Oui, parce que ça peut être à l'origine d'un embryon qui s'est bien développé, mais qui s'est formé, mais qui ne se développe pas bien, parce qu'il n'a pas le bon matériel génétique.
Certains le prescrivent pour les infertilités dites idiopathiques, c'est-à-dire sans cause retrouvée, pour essayer d'alimenter un petit peu des causes ou chercher de façon un peu plus approfondie. Ça peut être demandé avant embolisation de varicocèle. Certains urologues, avant d'opérer, se basent sur la fragmentation de l'ADN pour avoir un indicateur supplémentaire de l'intérêt de le faire. Ça peut aussi être prescrit dans les bilans d'échecs, d'implantation. Enfin, c'est assez large, les indications, mais encore une fois, il n'y en a aucune qui fait consensus. Parce que aussi derrière, on n'a pas trouvé de réponse parfaite, adaptée à une augmentation de la fragmentation de l'ADN. Ça passe soit par corriger des facteurs évidents, ok, une infection en cours, alors un homme qui fume, qui va être exposé à la chaleur, des critères connus environnementaux, mais finalement, on ne sait pas derrière si c'est multifactoriel, c'est quand même très compliqué de faire baisser une fragmentation de l'ADN élevé. Pareil, donner des compléments alimentaires, ça donne un argument pour le faire, mais derrière...
C'est pas magique.
C'est pas magique et c'est global, c'est multidimensionnel. Et donc, pour dire on peut le faire, c'est intéressant, c'est un indicateur aussi important, mais on n'a pas encore trouvé sur le plan scientifique de consensus commun sur quand le prescrire et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a cette fragmentation élevée. Parce que derrière, justement, ces fameux traitements antioxydants, donc on a vu à cause de lésions sur l'ADN des spermatozoïdes qui peuvent entraîner derrière plus de risques de cassure des brins d'ADN, bref, on n'a toujours pas d'argument solide pour montrer que ça a un réel bénéfice, aussi bien pour une conception naturelle qu'après AMP.
Ouais, après, ça reste intéressant parce que je trouve que, tu vois, pour les hommes, tu as cet examen un peu de la qualité du sperme, là où pour les femmes, tu sais, tu as un peu vous avez des ovocytes de mauvaise qualité, madame, qui peut être balancé comme ça, comme un coup près sans vraiment d'examen qui le prouve.
Ouais.
Alors que pour les hommes, a priori, quand tu as fait tous ces examens plus la fragmentation, tu sais vraiment comment est le sperme. Alors que pour les ovocytes, tu ne sais jamais vraiment tant que tu n'as pas tenté une FIV et vu que ça ne marchait pas, tu vois.
Tu le sais, mais tu le sais à un instant donné, à un instant
Oui, avec, parce que ça bouge tout le temps.
Oui, avec la limite du cycle complet de spermatogénèse qui dure 74 jours, donc environ 3 mois. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces fameux, cette espèce de période de wash-out, de renouvellement où... tout ce qui s'est passé dans les 3 mois peut jouer. Alors, c'est plutôt positif.
Bah oui, c'est hyper porteur d'espoir. Si tu as des mauvais examens, tu sais qu'en te mettant dans un mode projet amélioration du spermogramme, tu peux grandement l'améliorer.
Exactement. Et puis en plus, c'est encourageant. On peut voir des choses modifiées par des habitudes de vie. Et c'est vrai que pour le coup, pour la femme, ça, c'est beaucoup moins...
Ouais, c'est moins on-off. Quoi. Après, tu as aussi plein de choses où tu peux améliorer ton environnement, mais quand même, ouais. OK. Et donc là, tu disais... OK, tu vois les spermatos, etc., tu vas prendre les meilleurs. Et tout à l'heure, tu commençais à dire, c'est ce qui permet de choisir un peu l'indication médicale quand on est en PMA. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, quand on est, pour le coup, en PMA, entre comment on sélectionne les spermatos de l'insémination, en gros, il n'y a pas une grosse sélection, je crois, si j'ai bien compris. Après, pour la FIV, et puis toutes les subtilités de FIV ICSI, IMSI, où vraiment on vient forcer son job jusqu'à la limite possible.
Ah ouais, alors le plus... Bon, il y a l'insémination. L'insémination intra-utérine, la base de toutes ces techniques, c'est le test de sélection dont on a parlé, c'est-à-dire retirer le liquide séminal, les débris, concentrer les spermatozoïdes les plus mobiles, vraiment avoir le top des spermatozoïdes.
Ouais, c'est comme si on les passait au tamis un peu, quoi. On garde les meilleurs.
Exactement. Okay. On garde les meilleurs. Alors en plus, on pourrait en parler, mais il y a des nouvelles techniques de sélection qui existent. C'est des microfluidiques. Okay. Les microfluidiques, c'est finalement comme un petit circuit qui va permettre de sélectionner des spermatozoïdes de façon, pour le coup... parce que la sélection, on fait quand même tourner les spermatozoïdes dans des centrifugeuses. Ils sont dans des milieux de culture, hein, ils ont tout ce qu'il faut pour être bien, mais quand même, ça les bouscule un petit peu aussi. Là, les microfluidiques, disons que c'est une sélection un petit peu plus fine, mais c'est pas des dispositifs qui sont utilisés en routine et pas en première intention. Mais ça commence à
développer. Alors, tu leur fais faire, en gros, ça me fait penser à, je sais pas si t'avais vu passer cette course aux États-Unis, là où des étudiants avaient fait une compète de spermatozoïdes.
C'est un peu ça.
Je crois que c'est un peu ça. En fait, tu leur fais faire leurs preuves. Et s'ils vont jusqu'au bout du trajet, c'est qu'ils sont bons.
C'est ça. Ça leur fait tester en quelque sorte leur mobilité. On considère que justement ceux qui parviennent au bout du circuit sont moins fragmentés. Après, c'est le cas aussi en cas d'une sélection avec la centrifugeuse. Mais donc ces microfluidiques, c'est un petit peu les derniers progrès en cours qu'on peut avoir au labo. Donc ça, c'est la première étape. C'est cette sélection, qu'elle soit par centrifugation classique, on va dire, ou par microfluidique. Insémination, on va concentrer et inséminer une préparation de spermatozoïdes très mobile qui va coïncider avec l'ovulation. La fécondation in vitro classique, alors ça dépend des pratiques de laboratoire. En général, c'est entre 6 et 10 000 spermatozoïdes qui sont inséminés directement avec l'ovocyte.
Ok.
Donc, pas de... Voilà, c'est un petit volume.
Donc, tu as un petit... Comment on appelle ?
Des boîtes de culture.
Voilà, une boîte de culture. Ouais. Tu mets l'ovocyte et tu mets tous ces spermatozoïdes et c'est le premier...
Ouais, c'est
qui
ça.
Réussit.
Alors, il y a différents types de configurations de boîtes et l'idée, en tout cas, soit c'est des puits avec beaucoup de liquide de milieu de culture et l'ovocyte et on dépose, ou bien des systèmes avec des gouttes, des micro-gouttes recouvertes de milieu pour que les conditions de pH et de température soient bien stables. Et donc, dans chaque goutte, on dépose 6 à 10 000 spermatozoïdes avec l'ovocyte qui contient ces petites cellules du cumulus. Ça fait comme un petit nuage. C'est les petites cellules du cumulus qui sont autour. Et on va laisser les spermatozoïdes et l'ovocyte incuber, comme on dit, à 37, au chaud, pour que la fécondation se fasse, disons, naturellement.
Et ça, attends, c'est sous tes yeux, toi tu regardes ou tu les laisses faire leur vie ?
Ah non, on les laisse.
Parce que c'est... Ouais, ça peut prendre longtemps ?
Alors non, justement, c'est assez surprenant parce que finalement, il y a des études qui ont montré assez vite qu'elles se faisaient dans les 2 à 3 heures, cette fécondation.
Ah oui, mais quand même 2 à 3 heures où ils vivotent tous ensemble.
Mais c'est vrai. Ouais, c'est passé le temps.
C'est long.
C'est le temps. En fait, comme il y a toutes ces cellules du cumulus, le spermatozoïde, il a ses petites enzymes, il doit aller découper, libérer ses enzymes pour découper, se frayer un chemin. Et voilà, après, en général, les laboratoires, ils laissent incuber les spermatozoïdes et l'ovocyte toute la nuit. Donc, en général, la ponction, elle a lieu le matin. On prépare les spermatozoïdes, on fait l'insémination début d'après-midi, on laisse incuber. Et puis le lendemain matin, on sait que la fécondation et les premiers signes de fécondation, peut-être que ça a été vu avec Nadia, elle a lieu à peu près dans les 18 heures. Donc, on observera les premiers signes de fécondation à peu près 18 heures après l'insémination.
Mais là, tu prépares pas le spermato. Tu sais, on dit parfois, il faut le capaciter, là, enfin, lui enlever sa tête. Là, tu le fais quand même dans
non,
la vie classique.
On ne le fait pas. Ils ont cette hyperactivation une fois qu'on a fait la sélection et c'est au moment où il y a la réaction acrosomique, donc c'est l'acrosome qui va libérer ces enzymes pour aller féconder l'ovocyte au moment où il va être en contact. Ça met en jeu plein de récepteurs entre ovocytes et spermatozoïdes. C'est une réaction qui est sur le plan fondamental, qui est très étudiée, qui est hyper complexe. L'interaction entre les gamètes, c'est un vrai sujet. Et donc, il y a un phénomène qui est très important, qui est le blocage à la polyspermie. Ça veut dire que une fois qu'il y a un spermatozoïde qui a fécondé en FIV, bah, il faut surtout pas qu'un autre rentre dans l'ovocyte, puisque sinon on aura un contenu anormal en chromosome. Donc, il y a un phénomène qui s'appelle le blocage à la polyspermie de l'ovocyte une fois qu'il y a un spermatozoïde qui a fécondé.
Mais ça se fait naturellement aussi. L'ovocyte se verrouille dès qu'il y en a un qui est rentré.
C'est ça. Par contre, parfois, ça peut arriver en FIV classique. Donc, c'est classique, ça ne veut pas dire que c'est pas négatif, classique, mais on appelle ça FIV classique par rapport à FIV psy. Et en FIV classique, il peut y avoir justement des ovocytes, pas tous, mais certains, sur une cohorte, sur une ponction, qui présentent un nombre anormal de noyaux après la fécondation. Et ça peut être un signe d'une anomalie du blocage à la polyspermie. Par exemple, on a 3 noyaux, ça veut dire qu'il y a eu une anomalie et ils ont pu...
Et ça veut dire que naturellement, c'est peut-être ce qui se passait à chaque fois et qui faisait qu'il n'y avait pas de grossesse parce que les ovocytes n'avaient pas cette fonction-là.
Parfois, naturellement, ça peut arriver. Alors, c'est vraiment pas de chance si ça arrive à chaque cycle, très régulièrement. Là, ça peut vraiment être anormal. Mais en tout cas, si ça arrive en FIV classique et que ça représente... Enfin, voilà, il y a un seuil de tolérance. Si c'est 5%, ça peut arriver. Si c'est par contre, si c'est, je sais pas, 50% des ovocytes qui présentent 3 noyaux le lendemain quand on les observe après une FIV, alors on va potentiellement incriminer qu'il y a un problème de blocage à la polyspermie de l'ovocyte.
Ouais. Ils n'arrivent pas assez à refuser les spermatos qui viennent après coup.
C'est ça, c'est des échanges d'ions, c'est des ondes calciques, enfin, c'est ça qui est en lien avec la fécondation, pour essayer d'expliquer un peu le phénomène.
Et attends, j'ai juste une question, Lucille, avant qu'on parle des autres types de FIV, mais est-ce que c'est vrai que c'est l'ovule qui choisit un peu le spermato, qui envoie des petits signaux ? Et tu sais, on a toujours ce truc du spermato conquérant qui arrive et qui pénètre, alors qu'en fait, c'est plutôt l'ovule qui envoie des signaux chimiques.
Ouais, c'est ça. Mais après, ça, c'est plus physiologiquement, on va dire. Le chemin, il est quand même un peu plus long dans l'appareil génital entre...
Il a un mérite plus grand d'être arrivé jusque-là. Enfin, on est d'accord.
Goutte, dans cette petite goutte, là, avec ses 6000 spermatozoïdes. En fait, oui, en tout cas, dans l'appareil génital, on dit qu'il y a un chimiotactisme, c'est ça, l'attraction, et puis aussi via les hormones. Ouais, il y a un phénomène d'attraction comme ça des spermatozoïdes. Après, oui, ça met en jeu, comme je te disais, des récepteurs entre les deux gamètes. Au-delà de dire que l'ovocyte, il choisit son spermatozoïde, en tout cas, ce qui peut clairement arriver, ce qui arrive, c'est que l'ovocyte, il contribue à réparer certains dommages de l'ADN des spermatozoïdes. Dans le sens où cette fameuse histoire de fragmentation de l'ADN, de brins d'ADN cassés, un ovocyte, il a beaucoup à apporter au moment de la fécondation et au moment de la pénétration du spermatozoïde dans l'ovocyte. On sait que le spermatozoïde, il n'a pas l'attirail pour réparer son ADN. L'ovocyte, il l'a. Donc, un ovocyte, il peut aider un spermatozoïde à réparer son ADN. Mais sauf qu'après, l'ovocyte, il a aussi pas mal de tâches à entreprendre, puisqu'il va aider au développement des premières divisions de l'embryon, jusqu'à ce que l'embryon prenne le relais, qui est à peu près à J4. Donc, disons qu'on peut considérer qu'un ovocyte qui va avoir beaucoup de dommages de l'ADN des spermatozoïdes à réparer, plus le développement embryonnaire, on peut considérer, si on peut faire un truc un peu schématique, un peu vulgarisé, on peut dire que potentiellement, si l'ovocyte il est déjà un petit peu limite, ça peut consister à lui apporter un peu plus de tâches et c'est peut-être parfois trop en fait de réparer l'ADN du spermatozoïde plus la suite. Ou parfois quand des dommages de l'ADN sont trop importants, il n'y arrive pas.
Ouais, la charge mentale des femmes, ça a démarré dès là où on doit gérer les problèmes des autres.
Ouais, c'est un peu ouais.
Moi, tu sais, parfois je me dis que quand même, quand tu vois le volume de spermatozoïdes qui arrivent dans un éjaculat, tu sais, t'as un peu ce fantasme de dire c'est le meilleur qui gagne parce qu'il y en avait tellement et celui qui est arrivé, ça reste un exploit. Mmh. Et malgré tout, ça peut être un spermatozoïde mal formé avec un mauvais ADN. Enfin, mal formé peut-être pas, mais en tout cas avec un mauvais ADN. Tu dis c'est quand même dommage quand tu vois le nombre qui était sur la ligne de départ, que ce soit un mauvais entre guillemets. Qui est pénétré.
Que ce soit un mauvais, ou c'est vrai que finalement, on se dit aussi, peut-être, enfin, même si tu sais pas lequel va féconder, ça vaut peut-être le coup d'essayer d'améliorer l'ensemble de la qualité, si on peut dire, même si tu t'as pas la main sur tous les spermatozoïdes et la qualité de tous les ADN, mais en tout cas, parce que ça va arriver de façon aléatoire, essayer d'améliorer la qualité globale du sperme.
Bien sûr. Non, mais tu vois, si tu prends l'analogie d'un marathon, tu dis quand même le vainqueur du marathon, il est extrêmement fort. Tu vois, il n'y a pas de sujet. Alors que là, tu dis, tu peux être le vainqueur de la course à la fécondation et malgré tout, pas être le meilleur du lot, quoi.
Oui, mais ça, ouais, après, ça, c'est vrai aussi pour l'ovocyte, finalement.
Bien sûr.
Parce que d'un cycle à l'autre, il peut y avoir un ovocyte qui n'aura pas un contenu normal en chromosome et qui va mal séparer ses chromosomes, alors que le cycle d'après, ce sera le cas. Mais finalement, c'est le lot de l'espèce humaine qui fait qu'on a des gamètes pas parfaites. On n'est pas une espèce, on n'est pas des très bons reproducteurs à la base.
Ouais.
On est une espèce mono-ovulante, on a beaucoup d'anomalies des chromosomes, des embryons. Sur le plan du développement, on n'est pas.
J'ai lu que c'est parce qu'on avait des cerveaux beaucoup plus développés, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup moins de chances que les embryons se développent bien, versus certains mammifères où, en fait, à chaque coït, je ne sais pas si c'est le bon mot pour les animaux, mais tu as une grossesse, en fait.
Tu as un embryon
qui va au bout. Quasi. Alors que nous, on est plus complexe.
Mmh. Ah, je ne connaissais pas le lien avec le cerveau.
Ouais, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, une étude là-dessus. Okay. Donc ça, c'était, on va dire, FIV classique et aussi la vraie vie naturelle.
Ouais.
Et après, on a développé des techniques pour aller encore plus loin.
C'est ça.
Et encore mieux préparer le spermato.
Ouais, c'est ça. Ça, c'est après les années 90. C'est pas si vieux que ça. Hein. C'est les années 90. Avant cette date, un homme qui avait des spermatozoïdes, une très faible concentration ou une très faible mobilité, la FIV classique, elle marchait pas. On avait beau mettre en présence les spermatozoïdes avec l'ovocyte, ils bougeaient pas. Les spermatozoïdes, ils fécondaient pas bien ou peu. Donc, ils passaient en don de gamètes ou en adoption pour aller vers un projet parental. Les années 90, il y a une équipe qui a travailler sur la micro-injection. Il paraît, c'était un geste qui est arrivé par erreur, parce que à l'époque, finalement, enfin un peu d'histoire, hein, en fait, à l'époque, ils essayaient de déposer le spermatozoïde dans ce qu'on appelle l'espace périvitellin. C'est-à-dire qu'il y a la membrane autour de l'ovocyte, à l'intérieur il y a l'ovocyte, et donc il voulait déposer le spermatozoïde à l'intermédiaire entre les deux. Et puis l'histoire dit qu'il faisait ses essais, ça marchait un petit peu mais pas super, et puis il disait, oh, un jour, il n'a pas fait exprès, il a mis le spermatozoïde dans le...
Il est rentré plus, de façon plus bourrine, et c'est finalement c'était très bien.
C'est ça, mais finalement, très clairement, c'est une façon qui n'arriverait plus aujourd'hui de mettre au point une nouvelle technique sur les gamètes pour finalement un peu en quelque sorte forcer la fécondation. Et c'est du coup comme ça qu'est né l'ICSI, parce qu'ils ont trouvé qu'ils avaient très bon taux de fécondation. Okay. Très bon taux de fécondation, ça veut dire à peu près quasiment 60 à 70% des ovocytes dans lesquels on met un spermatozoïde qui fécondent. Donc ça, c'est pas non plus du 100%.
Hein. Ouais, mais c'est quand même beaucoup. Ouais, oui.
Voilà.
Donc là, en fait, tu viens le rentrer, ce qu'il a fait par erreur à l'époque, à l'intérieur de l'ovocyte.
C'est ça. Au préalable, par rapport à la FIV classique, la fameuse petite couronne de cellules qui était autour, qu'on a gardée en FIV classique, là, on l'enlève de façon à justement bien voir cette zone pellucide, cette membrane, et on peut comme ça aussi voir s'il est mature, l'ovocyte. C'est une chose qu'on ne voit pas sur une FIV classique. Et donc, il n'y a que les ovocytes matures qui vont être micro-injectés. Donc, on met directement le spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte.
Donc là, tu choisis le spermato.
Et là, on choisit le spermato sur la base de la morphologie. C'est opérateur dépendant, mais bon, les opérateurs connaissent une morphologie classique de spermatozoïdes sur la mobilité. Il y a des cas, puisque ça reste des indications, l'ICSI, c'est pour des spermatozoïdes, des paramètres spermatiques qui sont pas dans les normes ou en tout cas, parfois même, c'est des spermatozoïdes prélevés au niveau du testicule, des biopsies testiculaires qui ont permis de congeler des testicules, par exemple. Parfois, on peut même avoir des ICSI difficiles, compliquées, où là, on voit même pas, les spermatozoïdes sont potentiellement immobiles, mais il faut donc rechercher des spermatozoïdes vivants. Donc là, c'est plutôt des défis, en quelque sorte, pour les équipes au laboratoire, pour les techniciens et les biologistes. C'est que parmi les spermatozoïdes qui ne bougent pas, il faut rechercher des spermatozoïdes vivants.
Ouais.
Donc, il y a des tests complémentaires qui peuvent exister pour rechercher des spermatozoïdes vivants parmi des spermatozoïdes immobiles pour micro-injecter des spermatozoïdes.
Ok. Voilà. Toi, tu fais ce geste-là ou c'est des techniciens?
Ouais, non, au quotidien, c'est des techniciens. Après, les biologistes sont formés, enfin certains sont formés pour faire les micro-injections. Moi, personnellement, j'ai pu en faire, mais aujourd'hui, j'ai pas au quotidien. Y a pas besoin pour l'instant.
Ouais. Non, mais tu sais, je trouve ça vertigineux quand tu vois chaque enfant d'une même fratrie, comme ils peuvent être différents, et que tu dis que c'est toi, en fait, qui fais cette sélection qui va avoir un impact tel, en fait, sur l'enfant derrière. Tu vois, je trouve ça assez dingue, en fait,
c'est le pouvoir
que tu as à ce moment-là.
Ouais, c'est toujours un peu magique, c'est toujours incroyable, même quand on voit des étudiants ou des personnes qui voient cette image de déposer le spermatozoïde dans l'ovocyte.
Ouais.
C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est pas qu'on le banalise, hein, ça reste toujours un geste fort et c'est impressionnant, mais c'est vrai que c'est un peu le début de la vie qui se passe sous nos yeux et on a cette...
Ouais, et puis t'en as deux et tu vas prendre celui-là et ça a un impact tel derrière sur...
Ça fait des très beaux bébés, hein.
Mais oui.
Vous faites
certainement des très bons choix. J'en doute pas une seconde. Si tu pouvais voir une projection, tu ferais ton choix peut-être encore différemment, sachant qu'il y a des débats éthiques sur le choix qu'on pourrait influer le QI des enfants. T'as pas entendu ça? Ou ils font ça en Angleterre? Il y a une faille juridique qui leur permet d'envoyer des embryons aux États-Unis pour sélectionner le futur QI des futurs enfants.
J'ai entendu ça. Enfin, surtout, aux États-Unis, j'avais entendu. Je savais pas que c'était en Angleterre, mais.
Ouais, je crois qu'ils ont. Ils peuvent. Enfin, il y a des labos qui envoient du coup parce qu'il y a un peu un flou juridique qui l'interdit pas actuellement.
Alors en France, on n'est pas près de.
Ouais, on n'en est pas là. Hein. Ouais, ouais. Déjà, on fait pas le DPI, donc on n'y est pas.
Exactement.
Mais
exactement là. Et oui, on peut aller loin. Biologiquement, et sur le plan de la technologie, c'est on a les moyens. C'est les barrières éthiques qui vont aller derrière, qu'il faut ajuster. Hein.
Ouais, c'est sûr. Et donc après l'ICSI, il y a l'IMSI. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le
Alors, l'IMSI,
le pas en plus.
Le pas en plus, ben, je ne vais pas le survendre, l'IMSI. Ce n'est pas une solution, en tout cas dans la littérature. Ce n'est pas mon avis personnel. Hein. Je retranscris ce qui est retrouvé dans la littérature, qui ne montre pas de supériorité de l'IMSI par rapport à l'ICSI. L'IMSI, c'est simplement que le grossissement, la morphologie du spermatozoïde est plus importante. Et il y a une classification qui existe en fonction de la présence de certaines vacuoles qui, encore une fois, sont censées refléter la fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes. Donc, okay. Il y a une classification. Plus il y a de vacuoles, plus il y a de spermatozoïdes qui ont une tête anormale. Et donc, l'IMSI, c'est micro-injecter les spermatozoïdes qui ont le moins de vacuoles. Je résume un peu comme ça.
Et donc, que tu zoomes beaucoup plus, quoi.
Ouais, tu zoomes beaucoup plus et tu vois de cette façon, ça fait comme des petits cratères au niveau de la tête des spermatozoïdes. Et il y a plein de revues parce que je ne saurais pas dire le différentiel d'année entre l'apparition de l'IMSI. C'est vrai que c'est plutôt récent, enfin, ça fait pas 5 ans non plus, hein. Oui. Non, je sais pas, 10-15 ans que ça existe. Mais donc en 10-15 ans, tous les centres n'en font pas. Si c'était vraiment une plus-value énorme, je pense qu'il y en aurait beaucoup plus. Donc,
ouais.
C'est quand même pas quelque chose qui se fait partout. Et clairement, la littérature qui collige plein de données sur IMSI versus ICSI montre pas de supériorité de l'IMSI.
Ok.
Voilà.
D'accord, intéressant. Et mis à part tous ces sujets éthiques de choix de l'embryon, etc., est-ce qu'il y a des techniques, des nouveautés qui arrivent, des choses qui peuvent apporter un peu davantage d'espoir pour les gens pour qui tout ça suffit peut-être pas ? Ou là, on a atteint un niveau quand même de technicité qui est déjà remarquable ?
Après, sur les techniques de fécondation, de façon générale, on améliore, c'est pas nous, hein, c'est les firmes de laboratoire, mais les milieux de culture, ils sont quand même de plus en plus performants. Les incubateurs, okay. les technologies qu'on a au laboratoire, sur le plan des conditions de culture, en tout cas, elles sont quand même régulièrement optimisées. Après, tout ce qui est vitrification, ça a quand même beaucoup changé la donne, notamment avec la vitrification ovocytaire. Mais de façon générale, on reste un peu sur les techniques qu'on a depuis un certain nombre d'années. Il y a des petits dispositifs, comme les microfluidiques. On essaye, il y a un petit vent aussi d'IA sur les incubateurs time-lapse avec la sélection sur l'image. C'est arrivé, on a cru que c'était vraiment un grand pas. Ça apporte quelque chose, hein, l'analyse d'image, elle est intéressante, mais c'est pas encore avec les algorithmes, avec des annotations automatiques. Bon, ça a pas encore percé comme si c'était vraiment plus discriminant que l'œil humain.
Ouais.
Après, sur le plan technique, j'ai pas en tête là une façon révolutionnaire de travailler au laboratoire qui va tout changer, je pense.
Ouais.
Encore une fois, pour revenir à l'homme, mais il y a aussi une part un peu on peut aussi beaucoup attendre des techniques d'aide médicale à la procréation, mais je pense qu'il faut pas tout remettre à la médecine, à la technique, dans le sens où il y a une part aussi individuelle qui permettrait aussi d'augmenter les chances. Il y a plein de couples aussi à qui on a annoncé une infertilité et qui estiment que c'est terminé et il n'y aura plus de chance de conception naturelle. Or, c'est quand même vraiment faux, quoi. Il y a plein d'exemples, de contre-exemples de fertilité naturelle malgré un parcours d'AMP, Donc, il faut rester humble aussi sur les résultats en AMP. Hein. Ils sont bons, mais ils sont pas...
C'est pas une garantie à 100%.
C'est pas une garantie à 100%.
Ouais. Oui, et puis ce que tu dis, c'est que c'est très complémentaire et qu'en fait, un homme, par lui, par son hygiène de vie, par les choix qu'il va faire, peut influencer tout autant que toutes ces techniques ultra sophistiquées. Oui. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et souvent, l'un d'ailleurs améliore l'autre.
Oui, il faut potentialiser, exactement. Ouais. J'en reviens au sujet de l'homme. C'est pas parce qu'on va sélectionner un spermatozoïde pour faire l'ICSI qu'il faut dire c'est bon, mon spermatozoïde n'est pas très bon, j'ai rien à faire. Non, c'est faux.
Je délègue le sujet.
C'est ça. Non, parce que derrière, aussi bien pour optimiser les résultats et les chances de succès de la tentative que de la fertilité naturelle en parallèle, il y a des choses à faire.
Ouais.
C'est pas défaitiste du tout. Hein.
Oh non. Et on l'est pas ici. Est-ce que, du coup, tu as un petit mot de la fin peut-être sur ces sujets-là, sur ce que tu fais toi, ce que tu entreprends aussi peut-être en parallèle pour aider les hommes à se sentir encore plus acteurs maintenant qu'on a dit toutes ces techniques?
Ouais, exactement. Bah, c'est dans l'air de tout ce qu'on entend là sur les, justement, la baisse des paramètres spermatiques, les petits signaux dont je parlais, d'une envie qu'on perçoit des hommes, certains, qui sont avoués ou parfois cachés, mais quand même d'avoir envie de s'impliquer un petit peu plus, de se poser des questions. Il y a le site César Fertility qui est en ligne là depuis le 1er octobre et qui a vocation à déployer plusieurs petits outils. C'est un petit peu un couteau suisse qu'on va déployer avec des fonctionnalités qui vont petit à petit essayer de présenter aux hommes des tips du quotidien pour améliorer leur hygiène de vie via des articles, des accompagnements, essayer en tout cas de mettre un petit peu plus en avant l'homme dans le contexte de la santé reproductive, de les impliquer un petit peu plus.
Ouais.
Parce que ça reste un peu le versant, alors que c'est la base hein, dans la fertilité d'un couple, de s'intéresser aux demandes du couple. L'idée, c'est quand même que les hommes, on rappelle, c'est 50% des causes d'infertilité qui sont d'origine masculine, qu'elles soient isolées ou associées à une cause féminine. Donc, c'est quand même la moitié. Et puis, de toute façon, je pense que 100% des hommes s'intéressent à leur fertilité et au projet parental. Donc, l'idée, c'est d'impliquer un petit peu plus les hommes dans ce parcours, ça reste toujours un sujet sensible et compliqué d'en parler. Donc, c'est pour ça aussi qu'on réfléchit à des outils, peut-être un petit peu plus dans le digital, un peu plus du numérique. Voilà, tester des choses.
Pour trouver comment parler et comment sensibiliser c'est ça. Avec le bon ton, quoi.
C'est ça. Et les retours sont les bienvenus. Hein. Quel est le format qui plaît le plus aux hommes? Est-ce que c'est plus des groupes de parole? Est-ce que, justement, c'est plus une interface avec avec de l'IA pour répondre à des questions? Est-ce que... Voilà, tous les formats sont intéressants à explorer, encore une fois, pour essayer de trouver quel est le bon angle pour
parler aux hommes.
Pour parler aux hommes et pour les stimuler, parce qu'ils ont envie, mais il faut trouver l'impulsion. Et le fond, ça reste quand même que les hommes, ils ont besoin d'être au pied du mur, d'être confrontés à la difficulté pour agir. Et bon, on est peut-être plus dans l'anticipation, nous, les femmes. Alors, c'est peut-être pour ça que c'est une initiative qui vient d'une femme, je sais pas, mais
en tout cas... c'est ce que j'allais dire. moi, ma technique, tu sais, à un moment, quand justement j'avais les mêmes constats que toi et je me disais, il faudrait faire l'émanciper ES, tu vois, pour les hommes. Et puis après, je me suis dit... C'est les femmes qui rameutent, de toute façon, tu vois. Donc, nous, on parle aux femmes et on sait que dans le Fertility Club, notamment, elles viennent avec l'homme et que ça les implique. Mais bravo de parler directement aux hommes aussi parce que c'est pas facile de trouver le bon angle, la bonne façon de le faire.
C'est ça. Il y a que eux, peut-être, qui peuvent dire ce qu'ils préfèrent. Peut-être que tous n'ont pas le même avis, mais c'est vrai qu'on...
Bien sûr.
Il y a quelque chose à faire, en tout cas, quoi.
Ouais, il faut. En tout cas, tu peux pas en parler de charge mentale de l'ovocyte tout à l'heure. C'est pareil. C'est vrai que les femmes, on a tendance à porter beaucoup dans ce projet-là. Et c'est tellement agréable quand on sent qu'on est dans une équipe et que tout le monde y met du sien.
Évidemment.
Donc c'est chouette.
Ouais, c'est ça. C'est pas en plus que de la médecine. Il y a une part de psychologie aussi du couple derrière, de se sentir soutenu à deux. Enfin, en étant vraiment proactif, quoi.
Ouais, c'est très chouette. De toute façon, je mettrai le lien en dessous pour que on puisse tout retrouver. Merci vraiment, Lucie, pour toutes ces explications. C'était très chouette. Et du coup, voilà, maintenant, tout le monde a toutes les infos pour comprendre tous ces acronymes, pas toujours évidents, ou les térato-oligo-asténo. Maintenant, je sais que c'est grec.
Voilà,
c'est ça, grec, t'as dit.
Ah, c'est des racines grecques, quoi. Voilà. Pas trop aller chercher sur Internet et. Et les LLM qui parfois partent un peu, hallucinent un peu, pour avoir des
retours.
Ça
peut faire flipper.
Oui, voilà, c'est ça. Des fois, ils peuvent parler d'aller vers le pire très vite.
On évite. On va voir des personnes dont c'est le métier pour nous aider à décrypter.
Ouais, exactement.
Génial. Merci Lucille.
Merci Lorraine, merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous mets les références en description, notamment les études dont a parlé Lucille. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde un peu plus par rapport à ce dont on a parlé dans cet épisode ou d'autres, n'hésitez pas à m'écrire. C'est vous qui vraiment êtes à l'initiative de plein de sujets. Donc merci pour ça. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des notes, des commentaires, c'est hyper important pour nous. Et moi, je serai heureuse de vous retrouver la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous embrasse bien fort.
Émancipée.
Émancipée.
Émancipée.